Bonjour Jacqueline Arbogast.
Bonjour
Ça va
Luc,
bien?
ça va très bien vous?
Ouais, merci. La dernière fois, on avait commencé à aborder le stress.
Oui.
Et on va continuer parce que on se rend compte que c'est y a du démêlage à faire.
Tout à fait.
Le stress ponctuel, le stress répétitif, le stress chronique.
Oui.
La différence, les nuances, lequel ai-je?
Vous, je ne sais pas, mais mes clients présentent des stress différents. Le stress ponctuel qui peut être très violent, on s'entend, c'est quelque chose qui arrive une fois. C'est un accident qui vous donne un gros stress, c'est une annonce, une nouvelle qui vous stresse, c'est une demande à mariage. Ça peut être un stress, c'est un stress positif, mais
Ça
c'est un
dépend.
stress, hein?
Ça
Bon.
dépend parce que si tu dis non, tu sais pas ce qui va arriver.
Voilà, ça peut être un stress dans tous les sens du
Oui,
terme. Bon, ça, c'est le stress ponctuel qui arrive une fois et qui peut être doux, violent,
oui.
moyen. Bon. Le stress répétitif, c'est la personne qui, par exemple, n'aime pas conduire et tous les jours, quand elle va à son travail, elle stresse. Le reste de sa vie va bien, dans son travail, ça se passe bien, avec ses enfants, sa conjointe, son conjoint, peu importe, tout va bien. Mais conduire, c'est un stress et c'est un stress répétitif parce que tous les jours, elle va à son travail, elle est obligée de conduire. Et je me rappelle une cliente qui, effectivement, habitait en dehors de l'île de Montréal et devait venir sur l'île de Montréal. Compte tenu de là où elle habitait, elle n'avait pas de transport en commun. Elle était obligée de prendre sa voiture et c'était vraiment pour elle l'enfer à chaque fois. Et là, une fois qu'on a identifié la cause d'un stress, qu'il soit répétitif ou qu'il soit ponctuel ou chronique, on peut agir dessus. Donc, on a fait tout un travail avec cette cliente pour lui donner une sorte de détente intérieure, on va dire, pour aborder la conduite, pour aborder le chemin qu'elle avait à faire en voiture, le stress qu'elle avait avec la conduite, pour que ça s'apaise et puis qu'elle se sente plus en sécurité et qu'elle en fasse un moment, pas vraiment de plaisir, mais au moins neutre. Écouter les informations, écouter de la musique, travailler, elle voulait apprendre l'espagnol, ben qu'elle apprenne l'espagnol dans sa voiture.
Ouais, c'est vrai.
C'était quelque chose qu'on a pu travailler. Puis après, vous avez le stress là qui est chronique. Et le stress chronique, c'est la personne, souvent ça touche des personnes perfectionnistes, des personnes qui s'en font vraiment pour le moindre détail, la moindre chose, ou qui manquent de confiance en eux, manquent d'estime d'eux, donc sont toujours sur le qui-vive. Tout ce qu'on leur demande, tout ce qui arrive, devient sujet à angoisse, anxiété, devient sujet à se stresser. Les personnes qui n'arrivent pas à dire non et qui en prennent trop ou qui mettent pas leurs limites, stressent. Donc, il y a plusieurs, je dirais, plusieurs facteurs là qui peuvent à la fois générer du stress, mais aussi l'entretenir, puis ça va se cumuler.
Je ne sais pas si c'est un hasard, Jacqueline Arbogast, mais les exemples que vous nous avez donnés me font dire que le stress répétitif, du moins dans l'exemple, dépend un peu des autres et à notre façon de percevoir les autres, alors que le stress chronique dépend plutôt de nous et de notre manque de confiance, notre manque d'habileté, notre manque de savoir gérer. Est-ce que c'est généralisable
Je dirais pas
comme...
tout à fait
Non?
ça
OK.
parce que regardez le stress répétitif, ma cliente, c'était sa peur à elle de
Ouais.
conduire, c'était pas les autres.
Non, je comprends.
Bon, en plus,
Mais
elle avait
c'est peut-être à
peur.
cause des autres.
Elle avait peur aussi des autres éventuellement, mais
Ouais.
il y avait toute une partie où elle traversait la campagne où elle était toute seule. Et là, il n'y avait pas les autres. Donc, mais par contre, oui, l'entourage peut accentuer le stress ou au contraire faire en sorte que ça sera moins fort. Si vous avez un patron qui est là à vous demander sans arrêt des rapports pour avant-hier, ou un coordinateur ou un collègue qui est là à toujours vous stresser, ben oui, ça peut se rajouter. Mais je pense qu'il y a de la personnalité dedans de la personne concernée.
Lequel est le plus facile à travailler?
Moi, je dirais le stress répétitif parce qu'il y a une cause très précise. Le stress ponctuel peut être très difficile à travailler quand c'est un stress qui est généré par un événement potentiellement énorme.
Ouais, un incendie.
Un accident, un meurtre, un viol, tout ce que vous voulez, qui, là, ça, c'est pour ça qu'on peut même avoir des névroses
Ouais, ça
post-traumatiques, ça
marque.
marque. Donc, ce n'est pas toujours évident. Le stress répétitif, on connaît la source. Quand on connaît la cause, quand on connaît l'élément déclencheur, on peut travailler plus facilement dessus. Puis le stress chronique, c'est tout un ensemble. Il faut travailler la personnalité dans sa globalité.
Et là là. Les symptômes. Commençons par les symptômes peut-être physiques.
Oh, alors là, il y en a pas mal. Vous pouvez avoir des troubles de mémoire, vous pouvez avoir des maux de tête, des maux de dos, des tensions musculaires, des diarrhées ou de la constipation, des problèmes de sommeil, beaucoup, problèmes de perte ou de prise de poids, parce que vous avez des personnes qui, sous stress, vont manger pour calmer leur anxiété, puis ouais. d'autres qui, au contraire, sont incapables de manger, elles auront l'estomac noué. Donc, ça dépend des personnes. Douleur de la poitrine.
Mais comment se fait-il, Jacqueline, qu'il peut y avoir autant de... Et c'est vrai, je vous écoute, et je me dis, mais oui, c'est vrai. Comment se fait-il qu'il peut y avoir autant de différences dans les symptômes?
Parce qu'on est des êtres uniques. Parce que chacun...
Ouh, c'est beau, ça.
Parce qu'on est chacun des êtres uniques et qu'on a chacun des physiologies différentes. Vous savez très bien que vous avez, par exemple, en homéopathie, on dit qu'il y a des types de personnes, des grands longilignes, des petits gros, des personnes qui sont sensibles au froid, d'autres ça sera au chaud, au niveau de la régulation thermique. C'est la même chose pour le stress. Et par exemple, je vous reprends l'exemple de cette dame. Elle était stressée par la conduite, puis vous connaissez des tas de gens qui aiment conduire et qui ne sont pas stressés.
Bien sûr.
Bon, pourquoi elle? Ben parce que peut-être qu'elle avait eu des expériences qui l'avaient stressée.
Mais on aurait pu penser que, étant donné que, bon, un peu comme une maladie, souvent les symptômes sont sensiblement les mêmes, que le stress, qui est qu'une imposition, génère les mêmes symptômes. Mais non, il y en a une panoplie.
Je vais vous donner un exemple. Parce que prenez la grippe. Vous avez la grippe et moi, je l'ai. On aura peut-être les mêmes symptômes de fièvre ou d'éternuement et autres. Mais la manière dont on va le supporter...
C'est sûr. Moi, je vais être couché. Vous allez travailler.
Exactement. Absolument. C'est pour ça que je riais.
Ah, oui. Mais ça, c'est la façon qu'on vit avec les symptômes.
Oui.
D'ailleurs, c'est
donc,
pour ça qu'il y a des gens qui vont...
La manière dont on les gère aussi.
C'est ça. Il y a des gens qui vont aller consulter, qui vont aller voir et d'autres qui vont apprendre à vivre avec ou à supporter ça.
C'est exactement ça. Ouais. C'est la manière dont on va gérer une situation qui fait qu'elle va devenir stressante ou non. Et c'est valable pour toutes les situations. Toutes. Bien sûr qu'il y a des causes. Par exemple, vous avez un accident. Un accident, c'est stressant.
Absolument.
Je veux dire, pour tout le monde.
Ouais.
Mais la manière dont vous allez le gérer va faire que vous allez aller sur l'émotion, puis là, vous risquez d'avoir un stress qui augmente, ou sur la rationalité en disant, bon, je suis entière et vivante, c'est que de la tôle, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ou il y a quelqu'un de blessé, j'appelle en vitesse. Et suivant comment... Et après, ce que vous allez en faire aussi, pendant l'événement, mais aussi après l'événement. Est-ce que je vais le ressasser dans ma tête? Est-ce que ça va devenir quelque chose qui, comme une sorte de cauchemar, de flash toujours latent? Ou est-ce que, au contraire, je vais essayer de l'évacuer ou d'en parler? Parce que si j'arrive à mettre des mots sur mon émotion, des mots sur mon stress, je l'exprime, donc je le sors de moi. Alors que si j'en parle pas, je l'imprime, je le laisse à l'intérieur de moi. Et là, ça devient source de stress.
En regardant les stress, les symptômes physiques... Je me demande à quel moment ceux-ci deviennent-ils un signe que je dois travailler sur mon stress versus ben c'est quand même normal d'avoir du stress et ça va passer.
Écoutez, je voudrais donner une chose de base d'abord. C'est que le stress, c'est quelque chose d'utile. Il est là pour nous protéger le stress.
Comme le mal, d'ailleurs, comme une blessure.
Qui nous montre qu'il y a quelque chose qu'il faut soigner.
C'est ça.
Bon, ben là, ça nous aide parce que ça nous dit qu'il y a un danger à droite ou à gauche et qu'il faut faire attention. Donc, il ne faut pas condamner le stress. Mais par contre, c'est comme dans tout. Quand on atteint un seuil qui sort de la norme, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais vous savez faire la différence entre, bon, j'ai une petite crampe musculaire.
Ouais, le quotidien.
Et quelque chose qui est douloureux ou qui est répétitif ou qui est intense, là, on peut se poser la question. Puis, en plus, vous oubliez une dimension, c'est que oui, il y a des symptômes physiques. Mais avec le stress, il n'y a pas que des symptômes physiques. C'est rare qu'il y ait que ça ou que des symptômes psychiques. Souvent, c'est un mélange. Donc, vous allez avoir de l'agitation, vous allez être irritable, vous n'aurez plus d'énergie, vous aurez l'impression d'être sur les nerfs, vous serez incapable de vous concentrer, vous serez pessimiste, vous aurez des pensées anxieuses, vous aurez de la perte d'objectivité, vous aurez des troubles de jugement, vous aurez de la procrastination, vous commencerez à trop manger ou plus assez, à trop dormir ou plus assez, à abuser de l'alcool, des cigarettes, etc. Il y a plein d'éléments. Je veux dire, ce n'est pas un élément tout seul. C'est un faisceau de symptômes qui vont vous dire « là, il y a quelque chose ».
Ouais, mais là, avec toute cette liste-là, si je jumelle le psychique, le physique, je suis toujours en état de stress. parce que soit que j'ai mal à la tête, ou soit que je suis un petit peu anxieux, ou soit que je procrastine, ou soit que j'ai envie de dormir. Tu sais, je veux dire, ça devient difficile de savoir justement qu'est-ce qui cause cela.
Au contraire, vous l'avez très bien dit en disant oui? « soit j'ai ça, soit j'ai ça ». Donc, quand c'est « soit » ou « soit », ça veut déjà dire que je ne suis pas sûre que ce soit le stress qui en soit la cause.
Okay.
Vous comprenez? Si, par exemple, j'ai mal à la tête, ce n'est pas forcément dû à un stress. C'est peut-être dû au manque de sommeil.
C'est ce que je me dis.
Mais moi, je vous ai dit, il fallait un cumul. Il fallait qu'il y ait plusieurs symptômes en même temps et que ça soit répétitif. Et là, je me dis « oula, j'allume
». Il y a des solutions. Vous me dites que, bon, vous recevez des gens au bureau avec qui vous discutez de ces réalités-là.
Oui.
Donc, ça se traite, du moins ça se calme.
Oh, puis ça se traite, oui.
Ah oui,
oui, oui, bien sûr, oui, oui. Une des principales sources de guérison, j'allais dire, c'est de définir la cause. Parce qu'on peut agir, du coup, à la source du stress. Si vous ne pouvez pas le définir parce que c'est trop global. C'est de trouver quelles sont les situations dans lesquelles ça revient pour pouvoir agir sur les situations. Et puis, c'est aussi agir sur son environnement. Je veux dire par là, éviter les personnes stressantes. Ben oui. Vous avez des personnes qui vous calment, vous en avez d'autres qui vous énervent.
Ouais.
Bon. Prendre un peu le contrôle de l'environnement, savoir dire non pour ne pas être submergé. Moi, j'ai le souvenir d'une secrétaire que j'adorais là où je travaillais en France. Elle ne savait pas dire non. Elle était tout le temps submergée de travail. Je comprends qu'elle soit stressée. Évitez les sujets qui vous énervent aussi. Parce que sinon, vous allez sentir la marmite qui boue en vous. C'est une situation de stress. Et puis, organisez votre temps. Les gens qui partent en retard à un rendez-vous, c'est sûr qu'ils vont stresser. Ils ont choisi de partir en retard.
Mais en fait, je dis c'est simple. Oui. On dit ça, mais si c'était simple, les gens le feraient. Là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui quand même demandent un simple ajustement.
Oui.
Qu'il y en a d'autres où là, je me dis, on ne veut pas jeter l'eau avec le bébé. Quand on dit, supposons, bon, éviter les sujets de stress, Dieu sait que parfois, j'entends des gens qui disent, bon, moi, je n'écoute plus les informations parce que ça me stresse, mais en même temps, oui, mais tu es une personne mal informée. Et quand vient le temps de faire des choix, quand vient le temps peut-être de t'impliquer comme citoyen, il te manque des informations. Donc, tu ne t'impliques pas et après ça, on discute puis on rouspète parce qu'il y a des gens qui prennent puis qui font à nos dépens.
Écoutez, tout dépend de ce qu'on appelle l'information. Parce que si vous voulez savoir quelque chose sur la politique ou sur quelque chose sur l'environnement, etc., vous n'avez pas besoin des informations où on vous dit qu'un tel a fait tel meurtre ou un tel a eu telle enveloppe brune, etc. C'est pas les faits divers qu'il faut aller chercher là. Par contre, aller chercher avec maintenant l'Internet et tout ce qu'on a comme source d'information, on peut aller la chercher. Donc là, je nuancerai. Maintenant, je reviens à votre...
Aux solutions.
Le fait de trouver la cause fait qu'on va pouvoir beaucoup plus agir. Mais imaginons que nous ayons en face de nous une personne plutôt perfectionniste, anxieuse de nature, qui va être stressée pour tout et rien, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets là-dedans
On généralise.
Parce que pour cette personne, ce n'est pas tout et rien. Pour nous, ça nous semblerait peut-être anodin, mais pas pour elle.
Ouais.
Donc, entendez bien tous les guillemets que je mets derrière ça. Eh bien, là, il y aura besoin de travailler plus en profondeur, qu'est-ce qui fait que cette personne est perfectionniste. Et souvent, c'est en lien avec un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, ou un manque de confiance en ses capacités, en ses ressources. Si je suis stressée globalement à mon travail, c'est peut-être parce que j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur, que je n'y arriverai pas, qu'on attend plus que ce que je peux donner, etc. Donc, c'est un travail de fond à faire.
Jacqueline, comment... je reviens encore avec le bébé et l'eau du bain. On l'a dit, le stress, c'est bon. Et si l'émission me stresse, en même temps, le stress me motive à tenter de faire la meilleure émission possible. Et si, à un moment donné, je décide que, il ne faut pas s'en faire autant pour une émission de radio, le risque est aussi grand de dire qu'on s'en fait pas suffisamment pour l'émission de radio.
Là, je vais faire une nuance entre stress et trac.
D'accord.
Parce que qu'un animateur radio, qu'un acteur de cinéma ou de théâtre, ou qu'une présentatrice, une animatrice à la télévision ait un peu le trac avant d'entrer sur scène ou avant de commencer son émission, je trouve ça très bien parce que c'est ce qui nous donne la vigilance, c'est ce qui fait qu'on va se concentrer. Et c'est un peu comme en voiture. Je vais vous faire un parallèle. Quand vous êtes au volant d'une voiture, si vous êtes sur une route sèche, l'été, il n'y a personne en pleine campagne, votre vigilance risque d'être un peu moins élevé que si vous êtes la nuit, qu'il y a de la pluie ou du verglas et qu'il y a de la congestion. Ouais. Mais dans tous les cas de figure, pour être un bon conducteur ou un conducteur non dangereux, il vous faudra un seuil minimum de vigilance pour toujours être quand même à l'affût. Même si votre seuil est moins élevé sur notre route de campagne sèche, il faudra quand même que vous ayez un minimum de vigilance pour avoir une conduite sécuritaire.
Ouais.
Eh bien, en nous, on a un minimum de vigilance aussi qui s'appelle le stress, qui peut être juste là pour nous faire attention d'entendre quand on traverse la rue qu'il y a un camion qui arrive et qu'on regarde à gauche avant de traverser, ou regarder par terre et on voit qu'il y a, de la neige et que c'est glissant de la manière dont on pose les pieds. Ce stress-là, ce minimum de vigilance, j'allais dire, il sera toujours là. Et puis, vous pouvez le nuancer. Donc, si je vais rentrer à mon émission, je peux être zen, calme, mais en même temps avoir cette vigilance pour être attentive, pour écouter ce qui est demandé, pour bien préparer ce que je vais dire, etc.
Mais si je prends l'image olympique, y a-t-il une façon peut-être de canaliser le stress pour qu'il devienne, qui m'aide peut-être à pousser, à pousser davantage,
oui.
À prendre mon départ de façon plus aiguisée
Certainement, oui, ça va être la concentration, ça va être la visualisation, ça va être l'entraînement, ça va être le travail sur le démarrage, puisque vous parlez de ça.
Oui, oui.
Je suis sûre que ce départ, ils vont le travailler, le retravailler jusqu'à ce que ça devienne comme une seconde nature, pour que ça devienne comme un réflexe, de façon à ce que je ne sois plus stressée par le départ, parce que je le possède tellement... Que je le fais presque d'instinct.
Mais ça, c'est intéressant, justement, dans les solutions.
Oui.
C'est quand on cherche les causes, après, c'est d'essayer de peut-être pratiquer ou travailler, ou soit désamorcer, ou bien, s'il y a lieu de s'inquiéter, de le travailler et de le retravailler.
Oui. Puis c'est là où il faut vraiment se donner ce cadeau de rencontrer quelqu'un, un thérapeute, un coach, une personne spécialisée dans le stress et l'anxiété, ça vaut la peine. C'est se faire un cadeau à soi-même.
J'aime beaucoup vous écouter, vous. Merci beaucoup de venir, Jacqueline Arbogast.
Eh bien, moi,
très,
j'aime
très,
venir.
Très gentil. C'est fort agréable.
C'est
si vous voulez en savoir davantage, Jacqueline est conférencière, auteure, psychologue, psychiatre, enfin bref, allez sur
psychothérapeute.
Je suis toujours mêlé dans les affaires de psy, puis qui a un ordre, puis qui n'a pas d'ordre. D'ailleurs, les psychologues, c'est réglé, là, l'histoire de...
Presque.
Oui.
Il y a une loi qui s'appelle la loi 21 qui est apparue en juin 2012 qui définit le titre de psychothérapeute. C'est l'ordre de psychologue qui a en charge de donner ce titre. Et moi-même, d'ailleurs, mon dossier est en cours actuellement pour être reconnue par l'ordre des psychologues comme psychothérapeute.
Pour être dans l'ordre.
Voilà.
Merci beaucoup. On se reparle bientôt.